Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver, 13e saison des grandes gueules du sport, nouvel horaire, 3 heures de plaisir et de débat avec vous le matin. Au sommaire, aujourd'hui c'est un jour de fête avec la parade des champions cet après-midi sur les Champs-Élysées, l'occasion de vibrer une dernière fois avec nos médaillés olympiques et paralympiques qui ont battu tous les records cet été. La France dans le top 5 des médailles, était-ce un one shot? C'est la une des GG dans quelques instants. À 10h, les 55 millions d'euros de la Discord, le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé se poursuit. Mbappé ne veut pas de médiation, Paris ne veut pas payer, cette affaire entache-t-elle la réputation de l'international français? L'affronte des supporters de Ligue 1, de Ligue 2 continue contre les diffuseurs d'Azon et Bein Sport. Les autorités craignent de nouveaux débordements ce week-end. Les supporters ont-ils raison de se plaindre? Nous ouvrons le débat à 11h sans oublier vos rubriques traditionnelles. La punchline des GG, ce sera à 10h30, une déclaration d'amour de Didier Lacroix envers son joueur Antoine Dupont. Faut-il dire merci à Antoine Dupont? Est-il incritiquable? Le zapping, on s'en fout pas, le débat caché. Et nouveauté dans cette émission, la crise de la soixantaine de Christophe Cessieux. Il nous parlera de Vincent Labrune. Avant de débuter cette émission, je voudrais dédier ce week-end à une grande gueule qui n'a jamais participé à cette émission, mais c'était une grande gueule du foot, un précurseur, un véritable amoureux du jeu, un romantique avec qui j'ai eu la chance de faire de nombreuses émissions durant 10 ans. Vous l'aurez compris avec cette musique, notamment dans l'équipe du soir lors de sa présentation, c'est monsieur Didier Roustan. Alors on dit toujours du bien de quelqu'un qui vient de décéder, mais avec lui il n'y avait pas besoin de forcer le trait. Vous avez entendu beaucoup de choses sur Didier cette semaine, juste vous confier un sentiment personnel qui ne résume pas évidemment sa carrière. C'est vrai qu'il était incroyable, aussi incroyable qu'imprévisible. Et je m'en veux un peu aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai jamais vraiment réussi à apprivoiser la bête. J'étais jeune animateur et je l'admets aujourd'hui, pas toujours fan de l'avoir dans l'émission. Déjà parce qu'il m'impressionnait, c'était une légende. C'était difficile de trouver sa place à ses côtés. Aussi, et je le dis avec le sourire, parce qu'il pouvait dégoupiller à n'importe quel moment, partir dans ses folies. Avec lui, il faut bien le dire, un conducteur était aussi fragile que Javier Pastore. Je peux vous dire qu'il m'en a saboté des émissions. Et je me disais, en fait, Didier, c'est le seul consultant avec qui je n'arrive pas à être moi-même. Et puis un jour, on a déjeuné tous les deux. Pas forcément pour mettre les choses au clair, mais on devait animer une émission ensemble durant une saison. Il faisait une chronique, d'ailleurs, qui s'appelait « Roustan vers le futur ». Il était dans une sorte de DeLorean et il revenait dans le foot d'antan pour nous raconter ses histoires, ses souvenirs. Et là, j'ai compris. J'ai compris sa vision, son foot, son amour. Surtout quelqu'un qui triche jamais. Il jouait pas un personnage, il était vraiment comme ça dans la vie. Et je peux vous dire qu'il a été génial avec moi, hyper humain. Alors Didier, je m'adresse à toi aujourd'hui. Pardon d'avoir mis des années à être moi-même avec toi. Parce que toi, tu as toujours été toi-même dans la vie et en plateau. Et j'aimerais beaucoup aujourd'hui que tu reviennes saboter des émissions. Alors pour commencer cette émission, cette présentation, elle est pour toi. Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Didier Roustan, il en a saboté des émissions. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ouais, mais tu n'as pas encore eu ma peau.
C'est vrai.
Et je t'adore. Je m'accroche et je rends hommage aussi à ce grand monsieur qui nous a beaucoup inspirés. Moi, je suis un peu plus jeune que. Je suis aussi plus jeune de temps en temps que certains, un peu plus jeune que ne l'était Didier. Et c'est vrai que c'est un garçon qui nous a toujours accompagnés, qui m'a toujours accompagné tout au long de ma carrière, même si je le connaissais assez peu. Je l'ai rencontré 2-3 fois. Mais c'était une référence et ça va rester longtemps une référence. Voilà, si tous les jeunes journalistes pouvaient être aussi brillants et aussi dingues qu'il l'était, ce serait magnifique.
Exactement, une ouverture d'esprit et il a inventé des choses dans le foot. Tu as bien raison de le rappeler. Une grande gueule qui, comme Didier Roux, c'est un romantique du football. Bon, qui joue en 6-3-1. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut les amis, merci Jean-Christophe de tes bons mots. Oui, il n'a pas fini de nous embêter, c'est vrai Christophe, hein, parce qu'il s'accroche à son poste ce garçon. Hein.
Lequel, moi ou lui?
Toi?
À moi?
Toi, bah, bien
parce
sûr,
que
toi.
Lui, non.
Toi
parce que lui, non.
Ah, lui, bien
pas.
Sûr, évidemment. Non, Didier Roustan, bah, c'est mon époque. Moi, j'ai joué dans les années 80 et c'est là qu'il était au sommet, même s'il est resté longtemps au sommet. Et... ça m'étonne pas qu'il eût été pote avec Canto, en fait. Voilà, doudingue.
Exactement.
Voilà comment je pourrais dire.
Tu as bien résumé le personnage. Une grande gueule qui, comme Didier Roustan, on comprend pas toujours où il veut en venir. Denis Charvet, salut Denis.
Écoute, moi je l'ai croisé furtivement, mais c'est toute ma jeunesse. C'est-à-dire que moi j'ai adoré ce personnage, tout le temps. Tout le temps, je regardais les émissions, je regardais téléfoot. J'ai l'âge de. Ben, j'étais presque pratiquement le même âge que lui. Et j'ai adoré le personnage, la personnalité de ce gars. Mais malheureusement, je ne l'ai pas assez croisé ou rencontré.
Et puis une grande gueule qui contrairement à Didier Roustan, elle n'est pas restée longtemps à l'équipe du soir. Sarah Bitkowski, salut Sarah.
Non, tu as raison. Et valait mieux d'ailleurs. Et valait mieux. Et moi aussi, j'ai eu la chance de le croiser.
Bah oui.
Parce que mes premiers pas à la radio ont été une radio qui a disparu depuis, mais qui m'a appris le métier et dont beaucoup sont là aujourd'hui. C'est Sport OFM, absolument, où je croisais Didier Roustan, Daniel Riolo aussi.
Pierre Dorian aussi, non ?
Pierre Dorian, ouais, absolument. Tous ces gens-là, je les ai connus au moment de Sport OFM. Ils m'ont appris le métier de la radio.
T'as bossé avec les plus grands ?
J'ai bossé avec les plus grands. Tu as raison.
Et oui, on a même présenté les grandes gueules du sport ensemble.
Donc tu vois, j'ai vraiment bossé avec les plus grands.
Là, c'est pas les plus grands.
Allez, on embrasse évidemment toute sa famille et tous ceux qui ont connu Didier Roustan cette semaine triste, évidemment. Passons à autre chose, transition difficile, mais deux cadeaux à vous faire gagner dans l'émission aujourd'hui. Restez bien avec nous, l'expérience RMC pour vivre Paris Saint-Germain-Gérone mercredi prochain au Parc des Princes. Et en avant-première, deuxième cadeau, RMC vous offre le tout dernier iPhone, l'iPhone 16. Et donc c'est fou, hein, le temps file à une allure, on est déjà au 16. Dès que vous entendez ceci... Voilà, c'est pas votre portable qui vibre, hein, c'est nous, hein, dans la radio. Envoyez code au 732-16, code au 732-16. Soyez attentifs, l'alerte peut intervenir, peut arriver à n'importe quel moment. Une citation pour débuter notre premier débat. John Gardner a dit un jour, « Le monde est un interminable défilé de symboles ».
La une des grandes gueules du sport.
Ils vont le faire les Français, ils vont le faire les Français. Le triplé français, le triplé français. Joris Donnet, Sylvain André, Romain Mailleux. Le triplé de l'équipe de France de BMX.
Nouvelle balle de match pour Félix Lebrun. Les services qui est de Félix. Et oui, Félix. Pour l'équipe de France. Et donc, c'est pour le ping français. C'est la deuxième médaille de bronze.
Deux pénalités de chaque côté pour la gagne dans ce tournoi par équipe.
C'est un champion tétien.
Allez, on s'est gagné.
C'est Vazor que ça va jouer parce que Christophe Pilac, est-ce qu'il a tenté de bluffer, de partir trop vite? Léon Barstan revient à 15 mètres maintenant. Pilac est devant, Pilac est devant, mais Léon Barstan, il va passer devant, il va le faire. Mais oui, Léon Barstan, champion olympique.
C'est fini,
tout le monde là, tout le monde pousse. Allez, le premier ball des Français.
Et c'est
l'essai d'Antoine Dupont.
Ça paraît loin, hein, toutes ces émotions. Hein. C'est une sorte de feu d'artifice, l'occasion de célébrer une dernière fois nos champions olympiques et paralympiques. Cet après-midi aura lieu une grande parade des champions sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile, un événement gratuit qui affichera complet. Ces JO resteront à coup sûr dans l'histoire de notre pays, tant au niveau de l'organisation, vous le savez, de l'engouement, et sur le plan aussi purement sportif. 64 médailles, je vous le rappelle, 16 titres, 5e au classement des médailles, record absolu. La France 8e à Tokyo, 7e à Rio, 7e à Londres, 10e à Pékin, 7e à Athènes, 6e à Sydney. Et donc, vous l'aurez compris, 5e en France. La musique qui fout les jetons. Et cette question, la France dans le top 5 des médailles, était-ce un one shot? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Peut-être pas un one shot, mais il n'y en aura plus beaucoup des aussi beaux shots.
Sarah Pitkowski.
Non, moi j'y crois. Je pense qu'on est en train de s'installer dans le haut du
classement. On débat après. Oui ou non, les copains, vous connaissez le principe. Alors, vous connaissez cette émission.
Ben, je te dis oui.
Pascal Duprat.
Oui.
Denis Charvet.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgan Maury. Salut Morgan.
Bonjour à tous.
Qui va suivre cette parade tout au long de la journée sur RMC, mission spéciale à partir de 14h autour de Pierre Dorian. Comment va se dérouler justement cette parade?
Parade, c'est l'hymne des Jeux de Victor Lemann. Tout trouvé pour se défiler sur les Champs-Élysées. Volontaires, bénévoles, puis ceux qui ont participé au succès des Jeux. Les chemises bleues du comité d'organisation entameront cet après-midi festive à 16h. Puis ce sera le tour des athlètes olympiques et paralympiques, médaillés ou pas. Et leur staff à partir de 17h. Ils remonteront longeront les Champs-Élysées depuis l'avenue Georges V jusqu'au rond-point de l'Arc de Triomphe sur un podium de 300 mètres. Tony Estanguet, le patron de Paris 2024.
C'est à la fois une émotion particulière, mais on est ravis quand même d'offrir ce dernier grand moment ouvert dans la ville de Paris au grand public avec beaucoup d'émotions. Les têtes d'affiche des athlètes seront présents et je pense que c'est un bon moyen de terminer complètement, refermer ce chapitre de Paris 2024.
C'est une cérémonie voulue par Emmanuel Macron. Les champions en or de l'été seront presque tous là. Léon Marchand, Teddy Riner, Cassandre Beaugrand, Manon Appiti, Brunet, Antoine Dupont, les rugbyman, mais aussi les frères Lebrun. 460 athlètes prendront ce bain de foule au milieu de 70 000 personnes. Au bout des 300 mètres, une scène circulaire tout autour de l'Arc de Triomphe pour une partie plus solennelle. Après 18 heures, ravivage de la flamme du soldat inconnu par l'armée des champions, puis remise de l'Ordre National du Mérite ou de la Légion d'honneur par d'anciennes gloires du sport comme Didier Deschamps ou Laura Flessel. Avant la fête, Thierry Reboul, directeur des cérémonies de Paris 2024, à propos de cette CR5, hier matin au micro de BFM TV.
On va essayer de revivre tous les grands moments. C'est un best-of. On a sorti 4 albums. Quand on sort 4 albums qui marchent, normalement, on fait un best-of. On s'est dit qu'on allait y revivre. Soit en projetant sur cet immense écran qui est l'Arc de Triomphe, soit en live avec beaucoup d'artistes qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de revenir pour fêter ça tous ensemble.
Lucky Love sera présent, on l'a vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Amadou et Mariam aussi. Reverra-t-on Céline Dion ou sera-t-elle projetée sur les deux côtés de l'Arc de Triomphe? Un système est prévu. Thierry Reboul a promis un best-of et Emmanuel Macron veut du clinquant. Philippe Catherine, tout nu et tout bleu, sera-t-il de retour? Toujours tout nu et tout bleu. Ou en verra-t-on les métalleux de Gojira avec leur geyser de flammes? Concert donc de 21h à 23h pour les 30 000 chanceux. Assez rapide pour s'inscrire mercredi sur le site. Et les sportifs, bénévoles et acteurs de ces JO et Jeux Paralympiques. Pour prolonger la soirée, des DJ vont se succéder de 23h à minuit. Emmanuel Macron devrait profiter de cette journée festive pour annoncer une fête du sport chaque 14 septembre. Le point final de l'aventure olympique et paralympique, c'est aujourd'hui. Les Jeux, c'est qu'une fois dans une vie et ce soir, c'est fini.
Merci Morgan Maury pour ce point très complet. Tu nous feras vivre cet après-midi sur RMC cette parade.
C'est un reportage cet après-midi.
Elle sera là, Angèle, Morgan, ou non?
Peut-être.
Ouais, j'espère bien quand même.
T'aimerais bien.
Ah là là.
Bon, voilà pour la parade que vous allez vivre, je le disais, cet après-midi sur RMC. Ouais. Parlons du plan sportif, la France dans le top 5 des médailles. Est-ce que c'était un one-shot, oui ou non? C'est quoi? C'est un petit oui ou c'est un petit non, cher Christophe?
C'est un petit non. C'est-à-dire, je pense que on peut réaliser encore un top 5 dans 4 ans sur la foulée sur la lancée exactement de ces jeux. C'est ce qui s'est passé, par exemple. Alors, j'ai essayé de faire un comparatif avec un pays qui nous ressemble, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, exactement. Ouais. Londres 2012. Les Anglais avant leur jeu étaient à peu près à la même place que nous, entre 7 et 10. Et ils sont petit à petit montés en puissance. En 2008, 4 ans avant leur jeu, ils montent 4e au tableau des médailles. En 2012, à Londres, ils sont 3e. Ils font mieux que nous cette année, avec 65 médailles. Ils font encore mieux en 2016, donc 4 ans plus tard, en terminant 2e au classement des médailles. Et derrière, eh bien, ils ont retrouvé leur place naturelle, c'est-à-dire ils sont passés de la 4e à la 7e place. Ils sont désormais derrière nous. Et la France connaît un peu le même genre de truc, c'est-à-dire qu'on monte petit à petit en puissance. Je pense que effectivement, avec tout ce qui a été mis en place et tous ces athlètes qui ont été programmés pour Paris et pour Los Angeles, eh bien, on risque encore de connaître de beaux lendemains dans 4 ans, parce que ces gars-là, ceux qui ont peut-être manqué la médaille cette année-là, eh bien, vont réussir dans 4 ans, sans doute, à aller chercher la médaille. Mais qu'ensuite, on redescendra forcément notre rang. Il est autour de la 7e, 8e place
Conservation. Réponds oui, alors.
Réponds oui. Voilà.
Tu dis non, c'est l'inverse.
C'est bien ce que tu dis, Denis. Là.
Mais non, mais c'est oui.
Je te dis que dans 4 ans, on peut faire un top 5.
Réponds sûr, pas comme Denis.
Je dis oui, 4 ans, et
après, tu dis on va sombrer, on va passer 7e ou 8e
nation. Comme les Anglais, on va rester sur la foulée, peut-être même progresser. Et ensuite, tu vas retomber.
Est-ce qu'il faut vraiment voir le classement?
Donc, c'est pas un one shot, c'est un two shot. Tu sais ce que c'est les shots, toi, d'habitude, dans un bar. Ça, c'est pas one shot.
C'est vilain, ça.
C'est un coup bas sur les 3e mi-temps dans le rugby.
Non, ce que je veux dire, c'est que ne nous attardons pas au classement, mais plutôt au nombre de médailles, puisqu'on a quasiment plus d'une vingtaine de médailles supplémentaires. c'est est-ce qu'on sera capable de flirter toujours avec les 60 médailles? Est-ce qu'on pourra avoir, allez, entre 14 et 18 médailles d'or? C'est là, parce qu'en fait, la Grande-Bretagne est 7e, elle a 65 médailles. C'est juste un calcul d'apothicaire. C'est est-ce qu'on est capable considérablement de rester à ce niveau d'une soixantaine de médailles? Et moi, je le pense sincèrement, parce qu'il y a aujourd'hui des signes qui sont pour moi indélébiles, qui ont été ancrés depuis le moment où on a eu les Jeux Olympiques, c'est les investissements financiers. Les investissements financiers entre 2019, ils sont colossaux. Oui. Je sais où tu vas venir. Tu vas dire qu'on va en manger.
Les prochains Jeux Olympiques, c'est pas en France.
On est d'accord.
Donc le fameux home advantage, il va plus s'exercer.
Oui, mais quand tu passes.
Et vous oubliez une chose, c'est que les Russes, ils vont pas chaque fois ne pas faire les Jeux Olympiques.
Oui, mais
la question que vous posez,
les Russes,
peut-être que les Chinois n'y seront pas.
Répondez aux questions. J'ai pas besoin de venir vous trouver, bordel.
Je vais juste dire qu'en 2019, il y avait 273 millions d'euros pour le sport. Aujourd'hui, il y en a eu 460, dont plus de 115 millions pour le sport de la haute performance. C'est cela qui nous rapporte des médailles.
Mais on aurait dû avoir plus de médailles, alors, si tu dis ça.
Voilà. Bah, attends, on peut toujours rapporter. Oui, mais aujourd'hui,
c'est un magnifique argument.
On a eu la preuve qu'avec un investissement, on a des résultats.
Mais non, aujourd'hui, le résultat, c'est pas ça, le résultat. Le résultat, c'est
aujourd'hui,
que
tu as besoin d'argent.
Les JO à Paris, moi, je les ai vécus d'intérieur. Ça a sublimé tous les athlètes. Oui, mais tu l'as vécu, t'as bien vu que c'était, ça a sublimé les athlètes, ça les a transcendés.
Mais
ça sera jamais la même chose dans Los Angeles ou ailleurs. Non, en rugby, écoute, moi, je prends l'exemple du rugby à 7. Si on n'avait pas joué à Paris dans ce stade où il y avait 4000 personnes, on n'aurait jamais gagné.
T'aurais pas gagné la médaille d'or, mais t'aurais eu peut-être la médaille d'argent ou la médaille de bronze.
Mais même pas.
C'était une équipe qui était une des favorites.
Moi, je veux bien qu'on parle du home advantage. Effectivement, il a exercé son rôle, mais il a aussi de temps en temps, et certains athlètes l'ont dit, quand tu arrives dans un stade et que tu es très attendu, tu as une pression.
Mais il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a pas mal.
Non, non, il y en a beaucoup.
Il y en a quelques-uns qui sont plantés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Hand? Ils gagnent toujours.
C'est une erreur. Non, le Hand, c'est faux ce que tu dis. Mais non, c'est une erreur.
Donc c'est juste pour le rugby, mais c'est faux pour le monde. C'est toujours bon.
Vous savez,
je reprends la main tranquillement et Sarah va pouvoir vous exposer en 25 points ses arguments dans quelques instants. On revient,
oui,
Sarah. Il
y a beaucoup d'arguments.
Je voulais vous faire écouter aussi Tony Estanguet qui était en conférence de presse hier et il a répondu à cette question et il parle des athlètes qui se sont troués aussi. Donc il y a encore des médailles à aller chercher. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, 9h34 avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Pascal Duprat, je peux vous le dire, dans le studio RMC sur notre débat. Eh bien, ça chauffe énormément, même pendant la pub, ils se sont pris la tête. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. On s'en fout pas, avec notamment la première victoire des Verts et un coup de gueule du président de Lille, Olivier Létang. Vous allez voir, il n'est absolument pas content. Mais restons un instant sur notre débat. La France dans le top 5 des médailles, était-ce un one shot? Vous n'êtes pas d'accord, les copains. On l'a bien compris. Je vous propose d'écouter Tony Estanguet qui était hier en conférence de presse. On lui a posé cette question. Écoutez sa réponse.
Moi, j'ai été très impressionné par les athlètes français, par cette génération que je trouve très talentueuse, par le nombre de médaillables aujourd'hui que l'on a dans quasiment la totalité des disciplines. On a battu un record de médailles et finalement, il y a aussi beaucoup d'athlètes qui sont un peu passés à côté. Ce qui veut dire que oui, on peut être optimiste pour la suite. On peut espérer que l'équipe de France continue d'être peut-être encore plus compétitive sur les prochaines éditions parce que, encore une fois, je pense qu'elle a engrangé beaucoup de confiance à l'occasion de Paris 2024 et je suis sûr que ça va les pousser à vouloir être encore plus ambitieux et compétiteurs pour les futures éditions. Donc j'espère que tout sera mis en œuvre pour qu'ils continuent à bénéficier d'un large soutien à la fois par les acteurs privés et par les acteurs publics.
Voilà, le top 5 des médailles, c'est encore possible. Et il parle lui aussi de financement. Sarah, tu vas réussir à en placer une, vas-y.
Oui, parce que c'est exactement ce que Tony Estanguet vient de dire. Investissement public, investissement privé. Ces investissements publics, quand je vous dis qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 114 millions qui ont été donnés donné, en tout cas investi sur la haute performance. Aujourd'hui, il faut absolument sécuriser ces sommes-là parce qu'on a besoin d'accompagner les sportifs, que ce soit effectivement sur le plan technique, tactique, physiologique, enfin tout l'accompagnement. Après, évidemment, le budget, quand je vous donne 460 millions...
Mais comment tu les sécurises? Tu ne peux pas les sécuriser.
Pourquoi tu les sécurises?
C'est politique, eh ben, donc ça change vraiment de gouvernement.
Les investissements privés, aujourd'hui, il y a des mécènes qui ont investi dans le sport. Il faut savoir que chez nous, le mécénat n'existait que très peu. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises qui veulent investir avec la Fondation du sport, où en fait, quand on investit, eh bien, on peut avoir une réduction d'impôts. Et aujourd'hui, ça a permis de motiver beaucoup de grandes marques d'investir dans le sport. Peut-être que ce mécanisme-là, qui est très anglo-saxon, peut-être que nous aussi, on peut le conserver.
Mais ce n'est pas lié au JO ? À Paris,
mais c'est lié au JO, mais tu le verras plus pendant 100 ans. Tu peux le voir toujours le verre à moitié vide. Mais quand tu as des grandes marques de luxe françaises,
mais parce que ils étaient intéressés au JO, toutes les grandes marques sont intéressées à des événements mondiaux.
Les valeurs du sportif aujourd'hui, elles sont reconnues. Elles peuvent aussi permettre dans une entreprise de motiver, d'accompagner. Donc arrêtez de penser que tout va s'écrouler.
Ce que tu dis, c'est que
ça. Est-ce que
ça veut dire que tu prends pas en compte? Moi, je suis absolument OK avec tout ce que tu dis.
Moi aussi, mais après, il y a eu
des investissements qui ont été faits pour le sport, mais ils ont été faits surtout de manière sensible parce que les Jeux Olympiques avaient lieu à Paris.
Mais c'est
faut-il encore, alors que notre pays est très pauvre, OK, il faut le reconnaître, on a beaucoup de difficultés économiquement. Donc, est-ce que ces efforts vont être récurrents? Je suis pas certain. Et là, je te rejoins pas. Par contre, moi j'aimerais aller sur le factuel. Comment allons-nous faire alors que nous avons bénéficié de l'avantage du terrain pour être devant les États-Unis, la Chine,
la question, c'est est-ce que c'est one shot devant les Chinois et les Américains.
On te parle
mais
pas
alors,
de ça.
Ben non, c'est la question, est-ce que c'est one shot les 5? Nous avons bénéficié du home advantage et nous avons bénéficié du retrait des Russes.
Mais dis-moi, merde. OK, les Russes peuvent effectivement, s'ils reviennent, tirer un tag au concert international sportif.
Nous, on concourt avec les Allemands, les Italiens.
Alors, mais nous, on est quoi? Donc, t'as les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne,
l'Australie.
Le Japon a été deux fois troisième les deux fois où il a organisé les Jeux Olympiques.
Et puis après, il y a des sports importants olympiques où on n'existe pas. L'athlétisme, par exemple.
C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des sports où les gens ne sont pas encore à maturité. Et je pense que l'athlétisme fait partie de ces sports où tu as plein de jeunes pépites qui sont capables, dans 4 ans, d'aller chercher des médailles. Je te dis pas qu'on aura 10 champions olympiques.
T'en vois beaucoup, toi, en France. Des pépites en athlétisme qui vont réussir dans les prochaines années.
Sacha Zoya, depuis sa demi-finale, t'as aucune certitude en quoi, toi?
Tu penses que l'équipe de rugby à 7 elle va gagner 15 titres olympiques?
Mais c'est le règne de l'incertitude, le sport, tu ne sais pas. Marchand, il a des risques. C'est très bien qu'il a des temps, c'est très bien qu'il va réussir. Les athlètes qui, tu sais, qui dans le temps, ils vont réussir.
Mais en athlétisme, c'est la même chose. C'est pas des temps que tu dois faire en athlétisme.
Mais justement, les temps, il n'y a pas un Français en moins de 10 secondes.
Mais si, t'as eu quelques finalistes.
Lesquels, dis-moi.
Non, mais
dis-moi.
T'as des gens qui sont en train de montrer le bout de leur nez.
Mais on est en retard.
Mais bien sûr qu'on est en retard.
Tu dois concéder en athlétisme par rapport à d'autres.
Mais vous êtes un défaitiste.
Je voudrais revenir tout de même à ce que disait à un moment donné.
Tu vois ça, Christophe? Pendant 3 semaines, pendant 1 mois, c'était la France qui rayonnait, tout le monde avait la banane. Et il y a les pots, les tristes cires qui reviennent. Les tristes cires qui reviennent.
Il y a un débat, c'est one shot ou pas? Moi, je me dis, c'est pas one shot. Retournez chez vous, là. Ici, c'est la fête. Pascal, je reprends la main.
Juste pour vous dire, c'est vrai que quand on regarde les médailles des États-Unis, de la Chine, on ne se compare pas à ces pays parce que c'est impossible d'atteindre évidemment ce niveau. Après, la Russie, on en discutera au moment où la Russie sera réintégrée. Mais sinon, hormis ces deux grandes nations-là, donc États-Unis et Chine, quand on regarde au niveau des médailles, 65 médailles, on était troisième dans ce classement. C'est juste les médailles d'or qui nous a fait défaut. Et donc, on s'est retrouvé à la 5e place. Mais Je veux dire, mais c'est totalement possible. Et je rejoins un petit peu Sarah, c'est-à-dire que on n'était pas 25e ou 15e avant. On a toujours été 6, 7, 8, allez, peut-être 10.
Et on parle de ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Est-ce qu'on va aller à 6e
ou 12, le cap, il n'est pas très important.
Il n'est pas très important. Et est-ce qu'on ne peut pas capitaliser là-dessus? Est-ce que, déjà, on parlait à chaque fois, ah, on a attendu depuis l'attribution des Jeux Olympiques. C'est à ce moment-là où on devait mettre tous nos moyens. Et puis, on a vu certains sportifs dire, bah oui, mais on se réveille 2 ans avant en disant qu'on va faire 80 médailles, mais c'est pas possible. Est-ce que là, maintenant, vous avez la sensation qu'il y a une conscience collective où on se dit, ok, on est capable de le faire. C'est là où ça a changé cet été, peut-être, Sarah.
Ben oui, en fait, moi, c'est sur ça que je voudrais mettre le point. C'est effectivement, on a accompagné les sportifs, on a mis plus de moyens dans la très haute performance. On a créé des agences. Il y a l'agence du sport, il y a la fondation du sport aujourd'hui qui sont des piliers. En plus, le ministère des sports, on ne va pas se mentir, le ministère a un rôle de développement du sport pour tous. Mais le haut de la pyramide, il doit être géré par des professionnels pour qu'on puisse amener au plus haut niveau. Aujourd'hui, on a eu plein de finales. Donc ces finales-là, on peut se dire que dans 4 ans, ça va chercher une médaille de bronze et d'argent. Et ceux qui ont raté une finale en médaille d'argent ou en médaille de bronze, on peut potentiellement aussi se dire qu'ils peuvent aller chercher.
C'est vrai, Sarah, mais symboliquement, est-ce que ça ne va pas jouer aussi avec l'annonce du gouvernement ?
Eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que le projet de loi de finances qui va arriver là, en revanche, si on n'est pas capable d'investir, pas autant, parce qu'il y a eu les primes des médailles qu'il fallait budgéter, évidemment, mais si on n'est pas capable de remettre un budget conséquent, là, c'est catastrophique.
Au-delà du budget là, aussi, le portefeuille.
Il sera jamais conséquent.
Le portefeuille ministériel aussi. On se souvient souvent que le sport était rattaché à l'éducation nationale. Et là, il y avait un ministère plein avec le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Il y a quand même un bon côté, c'est que Michel Barnier, qui a été nommé Premier ministre, est un homme qui apprécie le sport. C'est l'une des
Savoyards
ouvrières. Des jeux d'Albertville en 92 avec Jean-Claude Killy.
Dans 2 mois, il n'est plus là. C'est vrai que vous parlez de Barnier, c'est bien.
Nos jeux d'hiver 2030,
mais l'optimisme, on voudrait partager. Je voudrais simplement être empreint de réalisme. Or, t'es un doux rêveur.
Retournez dans votre Paris Saint-Germain, retournez dans votre foot et laissez les Olympiens.
Voilà, tout de suite les menaces. Réductrices. Retournez dans votre foot. On va en parler de foot.
J'arrête parce que c'est du pugilat, c'est des coups bas, il n'y a plus d'arguments.
Donnez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Exactement.
Il ne veut pas les prendre.
Vous connaissez, c'est la célèbre phrase dans les grandes gueules du sport de David. Alors, 2 choses à vous dire. Déjà, vous l'avez entendu, c'est Morgan Maury qui nous a appris ça. C'était dans le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin. Le président de la République, il veut une fête nationale du sport. On en débat demain, les GG. Je sais que Pascal, Sarah et Christophe, vous serez là. Et notamment Sarah, tu es totalement contre cette fête du sport le 14 septembre. On fera un gros débat demain sur le sujet.
On est d'accord pour
une fois. Ils seront encore là, les deux vieux du Moupette Show, demain, ou on sera...
Et puis à partir de 14h, tout à l'heure, en direct des Champs-Élysées, Pierre Dorian, Stephen Brun notamment, Morgan Maury pour vous faire vivre cette grande parade des champions. Merci beaucoup Morgan d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. On s'en fout pas avec notamment l'énorme coup de gueule d'Olivier Létang.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec Pascal Dupraz ce matin, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Denis Charvet. À partir de 10h, on parle de cette affaire, de ce bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé. Est-ce que ça pourrait entacher la réputation de l'international français? Pourquoi on vous pose cette question? Parce que c'est le club parisien qui le dit lui-même et qui parle de réputation de Kylian Mbappé. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est la première victoire de Saint-Etienne hier soir et un coup de gueule du président de Lille. On s'en fout pas. Denis Charvet.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Alors, je m'en fous, mais j'ai quand même envie de garder.
Mais tu parleras pas.
Donc, tu t'en fous pas.
Non, je m'en fous pas.
Ok, Pascal.
Je m'en fous pas.
Je vais laisser les autres, je passe mon tour.
Hier soir, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, les Verts se sont imposés pour la première fois de la saison 1-0. Donc sur leur pelouse face à Lille, les Lillois qui enchaînent une 3e défaite de suite avant leur retour en Ligue des Champions. Olivier Létang était donc furieux.
Pour moi, ce soir, ce match, il est honteux. C'est un match qui est honteux. J'ai honte, franchement, de ce qu'on a proposé ce soir. Et je vais pas vous parler d'un point de vue technique ou tactique. Je vais vous parler de l'engagement. Et j'ai oublié la première des choses, c'est de féliciter Saint-Etienne. Parce que eux, effectivement, ont été dans l'engagement avec leur qualité. On peut pas être une grande équipe quand on perd trois matchs d'affilée. On fait trois matchs. Donc tout le monde était prévenu.
Tout le monde était prévenu, c'est une honte. Pascal Duprat.
D'abord, je trouve que c'est offensant pour l'AS Saint-Etienne, parce que l'AS Saint-Etienne, ouais, jusqu'à preuve du contraire, c'est un grand club, oui, qui joue en Ligue 1 et qui a gagné son premier match chez lui. Et Dieu sait s'il est difficile, quand Saint-Etienne est en Ligue 1, de les battre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, jusqu'alors, ils avaient perdu deux matchs. Un en Champions League,
phase préliminaire,
à Prague, et puis ensuite contre le PSG. Bon, franchement, Lille et PSG, même si Lille est un grand club, PSG est supérieur à Lille. Bon, voilà, je trouve que c'est exagéré, mais il doit avoir certainement une idée derrière la tête, parce que ce qu'on peut reprocher à Olivier Létang, c'est son sang chaud, mais par contre, c'est un garçon extrêmement intelligent.
Donc, ok, il est sur le coup d'après, il est sur la Ligue des Champions déjà la semaine prochaine.
C'est la provocation, oui, et puis voilà, il envoie un message. Simplement.
C'est de la com.
Oui, c'est la con, ouais. Mais il est un peu obligé aussi là, par rapport à son statut. Hein.
Mais il met à mal son coach, malgré tout.
Ouais. Finalement, ouais, il aurait mieux fait de laisser ses joueurs aller aux Jeux Olympiques. Et ils auraient eu une bonne préparation, ils auraient peut-être pu battre Saint-Etienne.
C'était ça ce que tu voulais dire.
Ouais. Au moins, c'est gratuit.
Non, franchement, on a bien fait de venir. Il ne veut pas accepter mon Doliprane, il devrait. Hein.
Lille s'est quand même qualifié pour la Ligue des Champions. Et c'était la raison pour laquelle il n'a pas libéré ses joueurs. Ils affronteront.
Si comme ça va aller loin.
Mardi prochain, le Sporting Portugal pour le premier match des Lillois. Les deuxièmes informations dans le zapping des GG à vous donner, c'est la France déjà éliminée en Coupe Davis. Tiens.
Alors, ça
on savait pas que ça existait encore. Bon, on s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Pascal.
Non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas, ça te fait marrer, mais tu t'en fous pas. Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas, ça me fait pas marrer.
Ok. Denis Charvet.
Je m'en fous pas, c'est dramatique.
Alors, l'équipe de France a été éliminée en phase de poule de cette Coupe Davis face à l'Espagne. Hein. Après la victoire de Carlos Alcaraz face à Hugo Humbert hier soir, un petit peu plus tôt, il y avait eu la défaite d'Arthur Fils face à Roberto Bautista Agut. On sait que l'équipe de France avait déjà perdu cette semaine face à l'Australie, donc c'est déjà terminé pour nos Bleus. Il faut savoir que depuis la réforme de la Coupe Davis en 2019, la France n'est jamais parvenue à dépasser cette phase de poule. Donc forcément, c'est dramatique pour notre équipe de France et forcément, on a du mal à s'y intéresser si à chaque fois, on n'arrive pas à passer un premier tour. Sarah ?
Enfin, même si on passe les tours, je pense que la lisibilité de la Coupe Davis, de cette formule, elle l'a définitivement tuée. C'est-à-dire que même si on va en phase finale, de toute manière, on se retrouve. Ben, tu te retrouves, mais tu te retrouves quoi ? En Espagne ?
C'est à Malaga, oui.
Où t'as encore ton public qui est pas là, t'es mélangé avec trois autres équipes et on gagnait. Ces matchs, ces équipes-là, on les a déjà battues. Mais on les battait avec une formule de Coupe Davis, c'est-à-dire quatre simples et un double. Les uns contre les uns, et après tu joues le numéro 2. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose. L'esprit d'équipe faisait que tu étais capable de battre des meilleurs joueurs que toi. Aujourd'hui, malheureusement, on est au niveau de là où sont nos joueurs. Et on peut pas faire d'exploit avec deux matchs de simples, tout simplement. Et le match de double, si t'es à un partout. Donc, définitivement, cette Coupe Davis, cette formule, ils l'ont tuée. Mais de la plus belle des manières, à savoir si elle rebondira. Et puis après, pour le bilan des Français, je vais dire, tout ce qui est étiqueté équipe de France, que ça soit les Jeux, que ça soit la Coupe Davis ou que ce soit la Fed Cup, aujourd'hui...
On n'existe pas.
On n'existe plus.
Ok.
Voilà.
Il faudrait faire un procès à Piqué.
Non, mais c'est pas Encore. C'est qui est responsable des...
Ah, non, si, c'est pas au départ, c'est l'AIT.
Non, mais je parle pas de l'équipe de France, je parle de la nouvelle formule.
C'est dirigeant du tennis.
Non, mais la nouvelle formule à Coupe Davis, elle est catastrophique.
C'est l'AIT qui vit... Comme une fédération française de foot, elle vit pourquoi ? Elle vit avec sa Coupe de France. L'ITF a besoin d'argent et elle vit avec quoi ? Avec la Coupe Davis. Et comme ça lui rapportait pas assez, eh ben ils ont cédé aux sirènes comme d'autres d'un gros investisseur privé.
Ça lui rapporte ça ? Là maintenant là.
Mais non, en fait ça rapporte plus rien. C'est comme l'histoire de Mediapro, c'est-à-dire que tu penses que tu vas tutoyer les étoiles et puis tu te retrouves à essayer de boucher les trous de ton budget.
C'est une illusion en fait.
Mais c'est une illusion. Voilà, on leur a dit ça va valoir des milliards et des milliards et ben finalement, il se retrouve avec plus rien du tout.
Après, il faut bien le dire, bon, ça n'a plus aucun intérêt cette Coupe Davis.
Okay.
Mais si l'équipe de France performait, peut-être qu'on s'y intéresserait un petit peu plus.
Encore
et le tennis français c'est en ce moment le néant absolu. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Fils hier. Il mène le match,
il
sert à 5-4 dans le deuxième set pour remporter le point. Et derrière, tout part en brioche, tout se délite et il perd le match. Et évidemment, derrière un beurre face à Alcaraz, qu'est-ce que tu pouvais faire? C'est une cata. Quand je pense qu'en 2017, c'est, il n'y avait pas si longtemps que ça, la France soulevait la Coupe Davis à Lille devant les Belges. Ouais. On avait fait 3 ou 4 finales d'affilée en 9 ans. Je veux dire, c'était, moi, j'attendais plus la Coupe Davis que les matchs du tournoi du Grand Chelem dans la saison. Et là, ça passe.
Faut que Sarah revienne à la fédération.
Ouais.
Le mec, il lance un truc, tu vois. Faire taper dessus.
Bon, allez, troisième information très rapide. Dans le zapping des GG à vous donner, c'est Jonas Vingegaard qui aurait l'intention de disputer le Giro en 2025. On s'en fout pas, Christophe?
Je ne m'en fous pas du tout.
Ok.
Je m'en fous pas.
Ok. Ça
va. Bon, à ce stade, je passe mon tour.
Denis?
Ouais, je vais écouter le spécialiste quand même du vélo.
Ah, tu vas écouter Pascal Duprat.
Voilà, merci.
Depuis ses débuts chez les pros en 2019, Jonas Vingegaard n'a jamais participé au Tour d'Italie et selon la presse flamande et la Gazzetta dello Sport, le double vainqueur du Tour de France aura annoncé à son équipe, la Visma Lease Bike, sa volonté de participer au Giro en 2025. Pour rappel, depuis 2021, elle a toujours participé au Tour de France et en 2023, il avait fait la grande boucle, puis aussi derrière le doublé avec le Tour d'Espagne, mais jamais donc le Giro. Christophe?
Comme tout le monde, comme tous les grands champion, il a envie d'aller se tester sur le Giro. Pogacar l'a fait l'année dernière avec le succès qu'on a connu. Vingegaard a envie aussi de sortir de cet objectif monomaniaque du Tour de France. Le seul hic, c'est qu'une nouvelle fois, il sera sans doute très esselé. Il n'y aura pas beaucoup de concurrence sur les routes du Tour d'Italie parce que tout le monde, tous les autres en tous les cas vont viser le Tour de France. Et dans quel état arrivera-t-il au départ du Tour de France? On avait cette question cette année
pour
Poggi. Bon, c'est vrai que Vingegaard,
tu penses pas
dans l'attente, c'est
il veut peut-être le faire pour faire le doublé comme Pogacar, peut-être. C'est peut-être ça sa volonté.
Ah ouais,
c'est de faire le doublé Tour de France et Giro.
Ben je lui souhaite
comme son concurrent.
Il y croit
comme
pas une seconde. Christophe n'y croit pas une seconde.
Non mais il y croit pas. Mais lui de toute façon il est pro. Comment dire?
Pogacar.
Ouais. Il y a que Pogacar. Lui, si Pogacar il fait pas le tour, il le fait pas. Il le suit pas.
ça m'étonne rien, parce que alors là il est accroché à son Tour de France.
Ah bon,
ami Christophe Cessieux.
C'est vrai que tu me fais penser à Vingegaard.
Il est accroché à son tour et au gamelle du tour parce que monsieur il bouffe.
Tu l'entends le type.
9h57. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des GG. Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.